السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chers sœurs en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité ce matin de nous réunir fi bayt min buyutillah Azza wa Jal, dans cette mosquée qui est une des maisons d'Allah Azza wa Jal, pour apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal, pour parler de son dîn et pour essayer de progresser. Le thème de cette intervention, inshallah, c'est développer une relation profonde et permanente avec notre Seigneur. Et c'est là l'objectif de la vie du mu'min. C'est l'objectif de la vie du croyant. Comment se rapprocher d'Allah Azza wa Jal? Comment développer les qualités où, à travers ses sifat, ses qualités, il va obtenir la proximité avec Allah Azza wa Jal? Parce que nous savons tous que le croyant qui a développé ses qualités, celui qui a su se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, il va connaître as-sa'ada fi dunya wal akhirah. Il va connaître une vie heureuse de ce dunya et dans le-delà. C'est donc là l'objectif de notre intervention, d'essayer de comprendre la façon que le croyant, les a'mal que nous devons accomplir, ou alors parfois ce ne sont pas que des a'mal, qu'est-ce que nous devons développer intérieurement pour développer une relation saine, mukhlis, sincère, profonde et mustaqim, permanente avec Allah Azza wa Jal. Avant de commencer cette intervention, ikhwani wa akhawati fillah, deux points. Premièrement, un sentiment de tristesse, un sentiment de frustration qui est en même temps mêlé à la colère. Vous avez compris qu'on fait référence aux événements qui se sont passés il y a quelques jours, hier, avant-hier, en métropole, en Isère principalement, où il y a eu, Allah Musta'an, encore une fois, une personne qui a porté atteinte à la vie de certaines personnes et qui a essayé de nuire à une quantité de ma'soumine, d'innocents, et au nom de l'islam, encore une fois. Pourquoi est-ce que je parle de colère? Parce que depuis quelques mois, quelques années, on n'arrête pas d'entendre malheureusement ce genre de déviance, ce genre d'acte malveillant qui est basé sur al-jahl, sur l'ignorance profonde. Et moi je dirais même plus, on parle même plus d'ignorance, les savants parlent de jahl murakkab. C'est de l'ignorance basée sur de l'ignorance. C'est des personnes qui n'ont aucune connaissance de l'islam, mais qui sont persuadées de connaître plus que les autres et qui vont laisser exprimer leur haine, leur mécontentement, leur frustration à travers ces gestes, Allah Musta'an, au nom du dîn. Alors, c'est au nom de tous les a'immas, je pourrais dire, de Saint-Denis, mais de la Réunion du monde musulman, toutes les personnes qui ont l'amour d'Allah dans leur cœur et qui veulent faire connaître aux gens la beauté de notre dîn, mais toutes ces personnes, ils sentent d'une certaine façon leurs efforts amoindri lorsqu'il y a ce genre d'événement, parce que automatiquement les regards vont se focaliser non pas sur la bêtise et l'ignorance de la personne, mais d'une façon générale sur notre dîn. Donc, au nom de tous les imams, les ulamas, les muftis, nous condamnons fermement ce qui s'est passé. Et encore une fois, on n'a pas besoin de se justifier, mais on a besoin d'intégrer le fait que cela n'a strictement aucun lien avec l'islam. On aurait préféré que la personne parle d'une vengeance personnelle ou d'un problème sur son lieu de travail, mais qu'il n'associe pas l'islam à cet acte qu'il a fait. Et donc nous condamnons de toutes les forces, et nous avons une pensée, et nous aurons toute la journée, tous les a'immas, les ulamas, les savants, les interventions qui auront lieu ici à Saint-Denis, mais également dans les autres villes, nous aurons une pensée pour la famille des victimes, parce que c'est une personne innocente. Et notre dîn de l'islam n'accepte pas qu'on reprend la vie à une personne innocente. Et les punitions sont sévères auprès d'Allah Azza wa Jalla. Dans certains hadiths, il est dit, on ne va pas trop s'étaler, mais dans certains hadiths, il est dit, juste pour qu'on prenne conscience qu'un hadith basique qui est plus ou moins connu du monde musulman, mais on se dit comment est-ce que ces personnes passent à travers ces textes prophétiques de base, que la personne qui a été tuée, la personne innocente qui a été tuée, le jour de Qiyama se présentera devant le tribunal d'Allah Azza wa Jalla avec ses plaies, avec ses blessures, et d'une main il s'agrippera au meurtrier, à celui qui a fait ça. Il va dire Allah Azza wa Jal, Salhu fima qatalani. Il dit, oh Allah, demande-lui pourquoi il m'a fait ça. Et les hisab seront shadid, les comptes seront sévères le jour de Qiyama pour ce genre de crime, parce qu'il n'y a rien de pire que de reprendre le ruh qu'Allah a mis dans le cœur d'un être humain. On ne parle pas de musulmans, musulmans, chrétiens, juifs, on ne parle pas de confession, on parle d'être humain insan. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. La créature la plus aimée par Allah Azza wa Jal. Allah Rabbul Izzah décrète qu'il y a un ruh dans cette âme. Au nom de quoi une personne se permet de reprendre ce ruh? Et pire encore, iftira wa kadhiban. Au nom d'Allah Azza wa Jal, c'est un crime sur un autre crime. Qu'Allah Rabbul Izzah protège notre ummah, protège notre dîn, nous protège des conséquences de ce genre d'action. Et qu'Allah Azza wa Jal apaise les cœurs et qu'Inch'Allah les personnes distinguent, ils arrivent à distinguer cet acte du message de notre dîn. Le deuxième message qu'on voulait faire passer avant le début de cette intervention, c'est qu'à l'issue du programme, il y aura Inch'Allah une séance de questions et de réponses, Inch'Allah, dans la mesure du possible. Le programme est censé durer une heure. Je ne vous cache pas que on avait prévu à peu près 2 heures d'intervention, voire un peu plus. C'est la moyenne de le mois de Ramadan. Dans toutes les villes, les interventions, c'est à peu près 1h30 minimum, voire 2 heures, un peu plus. On m'a dit qu'il faut vraiment rester dans 60 minutes par rapport aux dames. Je ne sais pas, théoriquement, on n'a pas fait que le biryani aujourd'hui, on ne mange pas. Mais bon, si c'est un principe, on va respecter ce principe. Et donc la séance de questions-réponses aura lieu à la 61e minute, quand les 60 minutes seront complétées, Inch'Allah. Mais je tiens à préciser que les questions doivent être en rapport direct avec le thème. Les questions doivent être en rapport direct avec le thème. On sera rejoint par Mme Mohamed dans un instant, qui va nous accompagner pour la séance de questions-réponses. Si on a quelques questions de jurisprudence concernant le saum, le jeûne, on peut, d'accord? Mais pas de questions trop générales. On essaie de rester, parce que cette thématique, subhanallah, elle est exceptionnelle, elle est magnifique, elle touche à l'iman ou à l'a'mal ou saliha. Elle touche la foi et l'accomplissement des bonnes actions. Et nous allons voir au fur et à mesure que nous allons étaler les versets du Coran et les hadiths, que dans le texte coranique, lorsqu'on parle de « Inna alladhina amanu », c'est toujours accompagné de « wa'amilu salihat ». On ne parle pas « mujarrad al-iman », on ne parle pas uniquement de la foi, et on ne parle pas uniquement de l'accomplissement des bonnes œuvres. Et nous verrons par la suite, on va essayer d'étayer un peu tout ça au fur et à mesure, on va sortir de l'entonnoir, pour voir que les actions sont simples, mais en même temps complexes. L'accomplissement des bonnes actions, basé sur les shurut, ce qu'on appelle les masa'il, les maslas, comment jeûner, comment lire le Coran avec tajwid, comment prier, la génuflexion, se fait de quelle façon, c'est des choses accessibles à tout le monde. Mais la profondeur de chaque action, le ruh de chaque amal, c'est là, c'est avec ça qu'on distingue le muttaqi du musulman qui ne fait que suivre les personnes. Vous savez que dans les hadiths, le prophète alayhi salat wa salam a parlé de celui qui ne pourra pas répondre aux questions des anges dans la tombe. Et lorsqu'on lui demandera « Man rabbuka, man nabiyuka, ma adinuk », il va dire « Je ne sais pas, j'ai vu des gens et j'ai fait comme eux ». C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui, le jour de Qiyama également, le prophète salam ira repêcher, reprendre des personnes qui ont fait le hajj, umrah, qui connaissaient le Coran, qui priaient, qui jeûnaient, mais qui sont dans le jahannam. Parce qu'ils n'ont pas compris la réalité des actions, ils n'ont pas compris que le cheminement sahih, correct, vers Allah Azza wa Jal, doit être basé sur la profondeur de la relation avec Allah Azza wa Jal, et une relation qui est sincère, mukhlis, et permanente, istiqama. S'il n'y a pas ça, on ne développera pas les qualités, les sifat des a'mal. C'est l'objectif de l'intervention, c'est une intervention, subhanallah, remplie de sens, donc c'est un petit peu difficile, on va dire, on n'est pas dans un bayan très simple, très classique à suivre, avec un cheminement thèse, antithèse. Non, c'est vraiment parfois un peu philosophique, mais pas philosophique spirituel. Il faut vraiment écouter bi'idhnillah et azza wa jal avec beaucoup d'attention, et surtout ne pas perdre le fil, pas une seconde, parce que en suivant le fil, on comprend à la fin, incha'Allah, c'est quoi haqiqatul iman, c'est quoi la réalité de la foi, et qu'est-ce qui m'a toujours manqué jusqu'à maintenant. À travers un exemple, l'accomplissement de la salah, une action qu'on accomplit au quotidien. Donc, ikhwan ya khawati fillah, la première des choses, la première des réactions, quand nous vivons comme aujourd'hui, la deuxième décade du mois de Ramadan, c'est nashkurullah azza wa jal. Nous remercions Allah azza wa jal, parce qu'Allah azza wa jal nous a donné iman, la foi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et Allah azza wa jal nous a donné la possibilité de répondre présent parmi tous les musulmans, les mu'minines, parmi tous les croyants, pour jeûner durant ce mois de Ramadan. C'est un mois Moubarak, béni. On a maintes et maintes fois entendu, le prophète alayhi salatu wassalam a décrit le Ramadan comme étant Yaw Shahrun Moubarak, un mois béni, c'est-à-dire rempli de bénédictions d'Allah Azza wa Jal. Et les savants disent que les bénédictions que le croyant, la croyante, ils peuvent obtenir durant le mois de Ramadan, on ne les retrouvera jamais durant les 11 autres mois de l'année cumulée. Yakfi, il est suffisant de penser juste à la nuit du destin pour comprendre l'intensité, l'importance, l'ampleur de chaque subhanallah, alhamdulillah, de chaque unité, de chaque fois qu'on va lire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, umuman, de chaque bonne action qu'on accomplit durant ce mois, ça dépasse de loin ce qu'on peut cumuler en termes de récompense durant les 11 autres mois de l'année, et même en termes de darajat, en termes de degrés, le mustawa, le degré qu'on peut atteindre durant ce mois, ikhwan ikhawanti fillah, c'est exceptionnel. C'est pour ça que les savants disent que le Ramadan, c'est un cadeau qu'Allah nous a accordé. En plus, nous avons donné le Coran, nous avons donné les actions. Vous savez que kama kutiba alal ladina min qabli, comme ce jeûne nous a été prescrit, comme il était prescrit aux autres communautés, mais ces autres communautés n'ont pas su garder, préserver le somme. C'est pour ça qu'on ne retrouve plus le Ramadan dans les autres adhyan. Mais parmi les hadiyas, les cadeaux qu'Allah nous a donnés, c'est que le Ramadan, mazala baqiya, est toujours présent parmi nous et le mu'min continue de pratiquer, de jeûner comme Abu Bakr al-Siddiq le faisait, comme les sahaba, les tabi'in, et jusqu'au qiyama, les croyants continueront à jeûner. C'est là un cadeau. La préservation de ce cadeau, c'est une ni'ma, une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal. Durant ce mois, on connaît les portes du paradis sont grandes ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, mais les shayatins sont emprisonnés. C'est-à-dire qu'on a la possibilité réellement de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et le fait qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde autant de faveurs, autant de facilités, autant de bienfaits durant ce mois, les savants disent que c'est là une grande preuve qu'Allah Azza wa Jal nous aime. C'est là une grande preuve de rahma, de la karam, de la générosité d'Allah et de sa clémence pour l'ensemble de cette ummah, l'ensemble des personnes qui ont la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dans leur cœur. Soyons donc persuadés, chers frères et sœurs en islam, qu'au moment où on est en train de parler, en plus d'être dans le mois de Ramadan, on est dans la maison d'Allah, on est dans une assemblée de dhikr, c'est-à-dire une assemblée où on enseigne, on apprend la religion, les malaïkas sont présents. Nous ne voyons pas, c'est un monde invisible, un monde parallèle, mais les malaïkas sont présents et ils savent avec exactitude le nom de chaque personne qui est présent, homme et dame de cette assemblée, et à la fin de l'assemblée, qu'est-ce qui se passe? Ils vont rapporter à Allah Azza wa Jal le nom des personnes, sharaf. Quel honneur de savoir que mon nom va être cité auprès d'Allah Azza wa Jal et qu'à l'issue de l'assemblée, mes péchés seront, incha'Allah Azza wa Jal, pardonnés par Allah Azza wa Jal. Et là encore, c'est une preuve de la clémence d'Allah. Donc les savants disent que soyons persuadés à chaque instant, ne perdons pas une minute, une seconde du Ramadan et soyons persuadés qu'Allah, à ce moment, est en train de nous couvrir de sa clémence, de sa générosité. Allah est en train de nous récompenser. Allah Azza wa Jal, on ne sait pas à quel moment il va nous accepter, à quel moment il décide de donner la réussite à un croyant, à quel moment Allah décide de donner tawfiq, de donner l'acceptation à une personne pour qu'il change sa vie, pour qu'il devienne un pieux mu'min, un musulman sincère. On ne sait pas à quel moment Allah décide d'accorder son maghfira, son pardon à une personne. S'il y a bien un moment où on peut espérer ça, c'est durant ce mois. On sort un petit peu du sujet et on arrive à l'aboutissement de le paradis, vous savez, de le jannah, le hadith qui est exceptionnel. C'est selon moi un des plus beaux hadiths, un des hadiths qui fait le plus rêver. Et il y a des fois où quand on est triste, des fois où quand on a des problèmes, des fois où quand on est, subhanallah, on a des épreuves, parce que la vie est une vie d'épreuves. Qui a dit que la vie devait être facile? La vie du mu'min principalement est remplie d'embûches, de difficultés. C'est ce qu'on appelle des ibtilas de la part d'Allah Azza wa Jal. Dans ces moments de difficulté, pensez à ce hadith. Quand le prophète alayhi salatu wa sallam explique, décrit que dans le paradis, c'est-à-dire quand il dit dans le paradis, ça veut dire que quand tout sera terminé, quand ceux qui ont la foi et qui ont accompli de bonnes œuvres seront déjà dans le Jannah. On a juste à se projeter une seconde, mais imagine que ce discours me concerne. Ça veut dire que j'ai réussi ma vie. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a été satisfait de moi. Il dit que donc, Allah maja'alna minhum. C'est-à-dire que dans le Jannah, lorsque les gens vont rencontrer Allah Azza wa Jal, vont admirer Allah Azza wa Jal, le hadith est long, il décrit cet instant qui est magnifique. À la fin, les Ahl al-Jannah de toutes les tabaqat, de tous les degrés, depuis ceux qui sont dans le Firdaus jusqu'au degré le plus bas. Et le hadith dit, il n'y a pas de degré bas dans le Jannah. Ils vont s'entretenir, ils vont parler. Ils seront allongés sur des divans, sous des arbres du Jannah, qu'Allah seul sait comment est-ce que ce sera. Et ils vont discuter, est-ce que tu te souviens à quel moment Allah m'a pardonné? Est-ce que tu te souviens à quel moment Allah m'a accepté? Parce que parfois c'est une question de déclic. Quand Allah te donne tawfiq, Allah te remet sur les rails. C'est une question de tawfiq, de maghfira. Quand Allah décide de te pardonner, c'est là que ta vie change. C'est là que tu peux passer de minar zulumat et ila nour. Ça concerne ceux qui n'avaient pas iman, ou que la personne qui est dans les péchés, il est fasiq, pécheur, endurci. Du jour au lendemain, il revient vers le droit chemin, bi tawfiq min Allah. Ça peut être par une bonne action que j'ai fait. Ça peut être par un doua que j'ai fait dans le tahajjud du mois de Ramadan. Ça peut être par une bonne action que j'ai fait envers mon père ou ma mère. Ça peut être par le doua d'une personne pour moi. À un moment, Allah t'accepte. Et les ulama disent que les moments où Allah accepte le plus de personnes, les moments où Allah délivre le plus de personnes du Jahannam, c'est durant le mois de Ramadan. C'est le hadith qui stipule qu'il n'y a pas une période de l'année où les gens sont, où il y a autant de personnes qui sont délivrées du Jahannam. En commentaire, les muhadithin disent, qui sont ces personnes qui sont délivrées du Jahannam? C'est pas ceux qui ne croyaient pas en Allah. C'est ceux qui avaient iman, qui avaient accompli de bonnes œuvres, mais qui avaient cumulé également des péchés, qui n'ont pas su demander pardon à Allah Azza wa Jal. Donc, à cause des péchés, ils doivent passer par le Jahannam. Mais ces gens-là, ils obtiennent le pardon d'Allah Rabbul Izzah durant ce mois de Ramadan. Il n'y a pas une période de l'année où autant de personnes, ils ont leur bon de sortie du Jahannam. Vous savez que dès maintenant, les noms des Ahl-Nar sont écrits sur la porte de l'enfer, qu'Allah nous protège les gens qui vont entrer dans l'enfer. Leur nom est déjà inscrit sur les portes de l'enfer. Et durant ce mois, il y a quantité de personnes qui, on pourrait résumer ça de cette façon, qui obtiennent leur bon de sortie, leur protection du Jahannam, parce qu'Allah Azza wa Jal nous couvre de sa karam, de sa générosité et de sa clémence. Donc, ikhwan ya khawati fillah, awwal shay, la première chose, une prise de conscience que ce qu'on est en train de vivre, c'est magnifique. Ne comptons pas les jours. Il reste encore combien de temps pour avoir faim, pour avoir soif? Il nous reste 2 semaines pour que je reprends mon sport, pour que je reprends un rythme de vie normal. Bien au contraire, nous devons pleurer chaque jour qui passe. Et nous devons regretter avec peut-être cette idée que peut-être que c'est la dernière année que nous vivons. Comme minna, combien de personnes étaient présentes parmi nous l'année dernière et qui ne sont plus présentes? Combien de personnes auraient aimé vivre ces ayam comme nous sommes en train de vivre? Donc, profitons, ikhwan ya khawati fillah, de chaque instant, en meublant ces secondes par al-shukr, al-hamd, les remerciements d'Allah Azza wa Jal, et la concrétisation de ces remerciements, ce sont l'accomplissement des bonnes actions. Et le plus grand signe de reconnaissance également, c'est l'éloignement total de tout ce qui peut provoquer la colère d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la réaction basique du croyant, du musulman, durant ce mois béni. Chers frères et sœurs en islam, durant ce mois, on a déjà passé 10 ou 11 jours à peu près de le mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'on accomplit au quotidien? Au quotidien, on jeûne. Au quotidien, on fait notre salat, les 5 prières. On fait les sunan, les nawafil. On fait la prière de la nuit, tahajjud. On fait la prière de salat au tarawih. On lit le Coran. On fait le dhikrullah. On fait les doigts et on donne le mon, la sadaqa. Il y a à peu près 8 ou 9 actions qui reviennent au quotidien. Depuis que je me réveille le matin jusqu'au coucher, l'ensemble de la Ummah, à 99 ou à 100, l'ensemble des musulmans, ils pratiquent ces actions avec plus ou moins de l'intensité, en fonction du degré de la foi, en fonction du degré d'implication dans les bonnes œuvres. Et en même temps, on s'efforce de s'éloigner des péchés. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc là, on a vu déjà, qu'est-ce que je fais au quotidien? Et je dois retrouver ces actions régulièrement. Deuxième point, durant ce mois, le croyant et la croyante accomplit ou se doit d'accomplir 5 efforts au quotidien. Yomiyan, chaque jour, je dois retrouver dans ma vie de jeûne, dans ma journée de saum, 5 efforts. 5 mujahada. Premier effort, as-sabr ala ta'atillah. L'endurance et la patience dans l'accomplissement de bonnes actions. Quand je jeûne et c'est difficile, je le fais pour Allah. Quand je fais la prière de Tarawih et que je suis fatigué, je le fais avec patience et endurance par amour pour Allah Azza wa Jal. Donc, être persévérant dans les bonnes actions. Ne jamais lâcher prise. Ne jamais se dire que on est fatigué, on a déjà fait 10 jours de Ramadan, 10 jours de Tarawih, ce soir je me repose. Non, tu restes ferme jusqu'au dernier jour. Ça c'est une action qui sera aimée par Allah Azza wa Jal. Le jeûne est synonyme d'endurance. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jal aime particulièrement cette action. Deuxième effort que nous faisons, ou alors que nous devons développer, c'est respecter son engagement avec Allah Azza wa Jal. Et quel est le premier engagement que je fais avec Allah Azza wa Jal? C'est quand je dis Allahumma inni asumu ghadan lak. Quand je fais le niya, l'intention du jeûne. Il y a que j'entame une journée de jeûne pour Allah jusqu'au ghurub al-sham, jusqu'au coucher du soleil. Al-wafa bil-ahd. Le fait de s'en tenir à cette promesse, ça aussi c'est un effort. Ça, il n'y a pas besoin de développer. Ça, on le fait déjà. Ça s'appelle jeûner. Après ça, les savants développent que cet effort, nous devons l'intégrer pour le reproduire en dehors du mois. Toutes les autres promesses qu'on s'est fait envers Allah, l'adoration d'Allah, ne pas faire le shirk, ne pas faire les péchés et accomplir les autres bonnes actions, ça va découdre de cette base d'éducation spirituelle que nous retrouvons au quotidien dans les ayams, dans les jours du Ramadan. Troisième effort que nous faisons, que nous devons développer durant ce mois, as-sabru an ma'asiyatillah, être patient face aux tentations du diable, face au péché. Chaque fois que le péché se présente devant moi, je dois être capable de dire non, de refuser. Je vois quelqu'un, je vois une personne que je n'ai pas le droit de regarder, je baisse mon regard. Même si en dehors du mois de Ramadan, je n'arrive pas à le faire, mais durant ce mois, je dois trouver la force spirituelle, et on l'a, cette force spirituelle. Cette force spirituelle, elle est présente en nous, à nous de la trouver. Donc cet effort, être patient face au péché. Ça c'est le troisième mujahada qu'on fait durant chaque jour du mois de Ramadan. Autre exemple, on est dans une assemblée, on entend des gens en train de parler sur une autre personne. En dehors du mois de Ramadan, j'aime bien participer à ce genre d'échange de riba, hein, de médisance ou de calomnie. Durant ce mois, al-imsak al-lisan. Je dis immédiatement non, je ne participe pas à cette conversation. Ça c'est du riba, ça c'est haram. Donc j'ai été patient face à une tentation, face à un péché. Quatrième effort, as-saytara al-nafs, le contrôle de son nafs. Et ça rejoint un petit peu le troisième effort, c'est être capable de se contrôler dans toutes les situations. Un contrôle parfait sur ses pulsions. Tout comme on a un contrôle parfait sur soi lorsqu'on est en train de faire la salat. Et cinquième effort, as-sabru ala su'ubati as-sawm. Ça c'est le plus évident, c'est être patient. Donc on a vu là les trois catégories de patience. Être patient face aux difficultés du jeûne. On est fatigué, on a mal à la tête, on a faim, on a soif, et ainsi de suite. On se dit qu'on le fait pour Allah Azza wa Jalla. Les savants disent que ces cinq efforts, on les accomplit, on les fait au quotidien, on les développe. Mukhlisan lillahi Azza wa Jalla. Et ce terme avec ikhlas, ça c'est le plus important. C'est pas juste un cumul de bonnes œuvres. C'est pas juste que je fais 20 rakat parce que Moulissa fait 20 rakat. Parce qu'ici on fait 20 rakat et tout le monde le fait. Donc je fais autrement. Je sens un manque. C'est comme si que le Ramadan n'est pas complet. C'est pas ça. Je fais avec persévérance, endurance, mukhlisan lillah, avec sincérité. Et à chaque fois où je sens de la faiblesse ou une lassitude ou que j'ai sommeil, je me dis que non, je me ressaisis pour Allah Azza wa Jal. Ça, c'est extrêmement important. Donc, les actions, les 9 actions du quotidien, les 5 efforts, et tout ça doit être basé, doit être englobé, doit être accompagné par al-ikhlas, la sincérité, et ma'aniyat al-istiqama, avec l'intention ferme de rester mustaqim, de garder ses bonnes habitudes toute l'année. Quand j'accomplis les bonnes œuvres, je fais l'intention que, incha'Allah, même après ce mois, je vais continuer à obéir à Allah Azza wa Jal. Même après ce mois, je vais continuer à rester éloigné de tel péché. Si là je vois qu'avec aisance, je contrôle mon regard, je contrôle mes oreilles, je contrôle ma langue, mon niya, c'est pas juste que je le fais ou je m'en éloigne durant 30 jours, c'est que mon niya, c'est avec istiqama, que même après, j'ai décidé réellement de changer ma vie. Et les savants, les ulama, rahimahullah, expliquent que ce jeûneur qui réunit ses actions du Ramadan, ses 5 efforts, avec sincérité et avec niya, l'intention d'istiqama, de fermeté, et avec l'envie de prendre un nouveau départ et de donner un renouveau à son iman, cette personne, faqad salaka at-tariq as-sahih ila at-taqwa. Cette personne-là a emprunté le chemin qui va l'amener directement vers la taqwa. Et n'est-ce pas là l'objectif du jeûne? Kama kutiba 'ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il y a une seule illa, il y a une seule raison qui est citée de le verser, afin que vous deveniez pieux, ou selon les traductions, afin que vous parviendrez à la piété, à la taqwa. Ça veut dire qu'il y a un cheminement. La'alla, avec espoir. La'alla, c'est ala tarajji. C'est avec espoir. Ça ne veut pas dire que je jeûne, je deviens pieux. Non. Avec espoir de changement. Et en fonction de mes efforts, en fonction de mes implications dans ces actions, en fonction de ma sincérité, en fonction de mon désir de changement, peut-être on va parvenir au taqwa, à la taqwa, à la piété. Et quand on dit développer une relation profonde et permanente avec Allah Azza wa Jal, et qui, ce sont des termes qui sont en relation directe avec la piété, la notion de taqwa, pourquoi est-ce qu'on parle de relation profonde? Quand je dis profond, c'est mukhlis, sincère, réel, ala basira, ma'al ilm, avec connaissance, avec clairvoyance. Par opposition à celui qui jeûne, qui prie la tarawih, qui donne, qui vient à la mosquée, parce que tout le monde le fait. Il démarre, il suit un wagon, il suit une troupe de personnes au début du mois, et quand ces personnes vont repartir le 2 Shawwal, il va repartir avec eux. Ça, c'est quelqu'un qui pratique, il a fait. On ne juge pas, astaghfirullah. Il a fait comme nous tous, il était à côté de nous. Il faisait ses 20 rak'at, il priait avec nous. Mais c'était douna ilm wa basira. Il n'avait aucune clairvoyance. Donc il n'avait pas de sens de relation profonde avec Allah Azza wa Jal lorsqu'il accomplissait ses actions. Et les ulama disent qu'à partir du moment où il n'y a pas cette relation profonde, il n'y a pas cette clairvoyance, la personne ne peut pas atteindre la taqwa. Parce que la taqwa ne peut s'installer dans un cœur rafil. La taqwa ne peut s'installer dans un cœur qui est insouciant. Tout comme la taqwa ne peut s'installer dans un cœur qui est jahil, qui est ignorant. Insouciant de quoi? Ignorant de quoi? Et c'est là qu'on arrive au mawdou' ra'isi. Ignorant ou insouciant, ce qui serait pire, de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Celui qui ne connaît pas, qui ne réalise pas devant qui il se prosterne. Celui qui ne réalise pas pourquoi il jeûne, pourquoi il a donné sa vie, pour qui il consacre son temps et chaque instant de sa vie, celui qui n'a pas compris la réalité de chaque sijda, de chaque salat, de chaque lecture du Coran, celui qui n'a pas compris, qui est dans l'ignorance ou dans l'insouciance concernant les sifat d'Allah, les qualités d'Allah Azza wa Jal, concernant la réalité, haqiqatul iman, la réalité de la foi, cette personne ne peut pas atteindre la taqwa parce que ça va être des efforts, des actions qui vont aller dans tous les sens, mais qui n'aura pas une ligne directive. Quand on n'a pas compris tout simplement devant qui on se prosterne, ben, la salat n'a pas de sens de notre vie. C'est-à-dire que oui, on se prosterne devant Allah et en face de la Qibla. Ça, c'est des connaissances basiques. Mais maintenant, enfant, il comprend ça. Maintenant, entre la salat d'un enfant et la salat de Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, est-ce qu'il y a muqarana? Est-ce qu'on peut comparer? Jamais de la vie. C'est-à-dire que connaître c'est quoi la salat, c'est quelque chose. Mais comprendre la réalité de la salat, la réalité du jeûne. Et je vais même plus loin. Connaître qui on adore, subhanallah. Depuis qu'on est petit, on lit calément avant de dormir, on lit les doigts et tout. Mais est-ce que je me suis déjà posé la question, quelle est vraiment la nature de ma relation avec Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que je connais d'Allah Azza wa Jal? Si on demande à une personne qui est Allah, et que la personne est capable de dire que Allah, ben Allah c'est Allah. C'est un seul. C'est déjà bien. C'est la base du tawhid. Et Allah nous a créé. Allah a tout créé. Si ça s'arrête à là, c'est que il y a un problème dans sa relation avec Allah Azza wa Jal. Dans le premier, la première base de iman, amantu billahi, il y a déjà un naqs, il y a déjà un manquement. Ce qui veut dire dans amantu bil malaika, il y aura un manque. Amantu bil kutub, bil rusul, bil yawm, bil akhir, bil qadri, il y aura un manque. Et le plus grave, c'est quoi? C'est que ce manque, ce naqs, va se répercuter dans Bunya al-Islam ala khams, la shahada, wa qamat as-salah wa ita az-zakah wa sawm ramadan wa hajj al-bayt al-haram. Ce manquement va se répercuter directement dans la façon qu'on jeûne, qu'on accomplit la salah, qu'on donne la zakah et qu'on accomplisse le pèlerinage. Même si je fais le hajj tous les ans, à partir du moment où iman billah ne s'est pas installé dans le cœur, que je n'ai pas créé une relation permanente, sincère avec Allah Azza wa Jal, ben mes prosternations seront certainement acceptées par Allah. Mais cette salat ce saum, ce hajj ne m'apportera pas spirituellement ce que ces actions sont censées apporter à la Ummah. Ce n'est pas pour rien si Allah nous a donné ces piliers. Allah nous a toujours donné ce qu'il y a de meilleur. On est d'accord, oui ou non? Le meilleur prophète, le meilleur livre, les meilleures périodes pour se rapprocher d'Allah, Laylatul Qadr, le Arafat, Muzdalifa, et ainsi de suite. Allah nous a toujours donné ce qu'il y a de meilleur. Mais comprenons que les a'mal qu'Allah a rendu faraz, par opposition aux actions qui ne sont pas obligatoires, c'est la sélection d'Allah. C'est ce qu'Allah a sélectionné pour cette Ummah. Et en commençant par la Salah, et des années après, c'est venu le Saum et la Zakat en même temps. Et des années après, plusieurs années après, c'est venu le Hajj. C'est-à-dire que ces actions-là sont censées m'apporter des choses énormes dans ma vie spirituelle et dans ma vie du dunya umouman, mais à condition que ces actions reposent sur un socle. Ce socle, c'est le iman. Ce socle, c'est la foi. Est-ce qu'à un moment donné, je me suis déjà posé la question, comment améliorer la qualité de mes salats? Oui, la réponse est oui. On est toujours dans cette optique, ben, il faut bien faire namaz, mamay. Il y a bien, il y a tajwid, ruku, c'est pas comme ça, il faut qu'un verre d'eau puisse tenir sur ton dos, il faut que dans le sijda, tes coudes ne touchent pas le sol pour les messieurs, et ainsi de suite. Donc, fiqh wal kayfiyya, on se fait tous du souci. Mais est-ce qu'à un moment donné, je me suis réveillé, je me suis dit, pareil qu'on va au hajj, on est assiégé de questions, mais sais, comment il fait, est-ce qu'il rase la tête avant, il coupe le gabri avant, est-ce qu'il tape shaitan avant, fiqh, on est un fiqh, et c'est bien, mashallah. C'est bien, c'est positif, ça prouve qu'on a envie de bien faire. Mais pour bien faire, il faut que c'est basé, ça se repose sur ce socle de iman. Donc, ce que je disais, est-ce qu'un jour je me suis réveillé en me disant, comment je vais améliorer ma relation avec Allah Azza wa Jal? Est-ce que je connais réellement Allah? J'ai 35 ans par exemple. Depuis 25 ans, je sais pas, depuis 20 ans, je me prosterne devant Allah Azza wa Jal. Est-ce que je connais qui est Allah Azza wa Jal? Est-ce que je me suis déjà posé la question devant qui je fais le sijda? Pour qui je m'éloigne du haram? Il a rêvé d'Ali. Ça c'est al-iman billah, ça c'est la base, ikhwani fillah. C'est ce qu'on appelle une relation profonde avec Allah Azza wa Jal. Et on a dit une relation permanente, et quand on dit permanente, c'est en rapport avec le temps. Et quand on dit en rapport avec le temps, ça nous amène vers la qualité qu'on a citée en introduction, c'est à l'istiqama, être ferme, et quand on accomplit l'action, c'est avec une niya de fermeté, de durée dans le temps. Parce que les savants disent, on va essayer d'aller un peu plus vite, la taqwa ne s'installe pas dans le cœur, et c'est un problème ça, parce que la'allakum tattaqun, je jeûne 29 jours, 30 jours pour obtenir la taqwa. Mais les savants disent qu'attention, cette taqwa va entrer dans ton cœur à partir du moment où tu réunis des conditions. Et parmi les conditions, c'est niyatul istiqam, l'intention de rester ferme sur la bonne action. Parce que les savants disent que la taqwa ne s'installe pas dans un cœur qui s'est fixé des objectifs, des limites en termes de temps, dans l'accomplissement des bonnes actions et dans l'éloignement du haram. Ça, c'est incompatible avec la réalité de la foi. Exemple, je prie, mashallah, je suis au premier rang tous les matins Fajr. Mais dans ma tête, je sais pertinemment que mon intention c'est d'être présent à la masjid ayam Ramadan, bas, durant le mois de Ramadan. Et que quand on trouve la lune, le jour de Eid, le lendemain, le 2 Shawwal, je reprends, astaghfirullah, ma vie normale. Et je ne viens plus à la masjid. Ou qu'une personne, durant le mois béni, il arrête de faire des péchés. Mais il a l'intention ferme, je donne un exemple, j'ai 18 ans, hein, je sors avec une jeune fille et tout, et je dis que bon, c'est le mois de Ramadan, on met sur pause notre relation. Mais après Shawwal, on se retrouvera de plus belle et on ira en week-end à Sylos, et ainsi de suite. Est-ce que l'éloignement de ce haram a été fait avec les conditions requises pour obtenir la taqwa? Parce que la taqwa, ça s'obtient avec amalun salih et ijtinabul haram, accomplissement de bonnes œuvres, éloignement du haram, mais à condition qu'il y ait sincérité et istiqama. Mais à partir du moment où je m'éloigne du péché avec une limite dans le temps, dès le départ avec mon niya, cet éloignement du péché ne me permettra pas d'arriver au istiqama, d'arriver à la taqwa, d'arriver à la piété. Donc les savants disent, ces efforts doivent être accompagnés de la sincérité et l'intention de continuer de façon permanente ces bonnes actions. Parce que la taqwa, ikhwani akhawati fillah, la taqwa ne s'installe pas dans le cœur d'une façon, ça ne s'installe pas dans le cœur avec un hajj, avec un umrah. J'ai jeûné Ramadan, maintenant je deviens muttaqi. Ça ne se passe pas comme ça. La taqwa, c'est, ça s'installe. La réalité de la foi, ça s'installe dans le cœur à partir du moment où on a une prise de conscience. Une prise de conscience de la réalité de iman ou billah et des autres branches de la foi. Mais comme on n'a pas 2 heures de temps, on n'a qu'une heure, et il reste là 40 minutes, on va travailler juste sur 2 piliers de la foi. On va garder les exemples de 2 piliers, Amantu billah et Amantu bil yawmil akhir, le premier et le 5e pilier de la foi. Donc, la taqwa, comme je l'ai dit, ne s'installera pas dans le cœur avec une bonne action qu'on a fait subitement. Un hajj, un umrah, un khatm al-Qur'an, un ramadan. Non, c'est à partir du moment où il y aura une prise de conscience de la réalité de Amantu billah, de la foi en Allah, et de la réalité également de la foi sur le jugement dernier. Et quand on arrive à se projeter, on le dit presque comme une conclusion, quand on arrive à se projeter à chaque instant de sa vie, à chaque minute de ma vie, j'arrive à me projeter dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'à chaque prise de parole, à chaque décision que je vais prendre, à chaque pas que je fais, le hadith qui stipule que l'ange inscrit chaque pas que tu accomplis. Est-ce que c'est dans une bonne intention ou une mauvaise intention? Une bonne action ou une mauvaise action? À chaque instant de ma vie, j'arrive à me projeter vers le akhirah, que je vais un jour répondre de cette parole, de cette décision, de cette action, de l'intention que je vais faire là, je vais devoir répondre devant Allah Azza wa Jal. Quand j'arrive à ce niveau de iman, à ce niveau spirituel, où le croyant a les pieds sur terre, mais le cœur devant Allah Azza wa Jal, le cœur en prosternation permanente devant Allah Azza wa Jal, les pieds sur terre, mais le cœur avec Allah Azza wa Jal, c'est là qu'il a atteint la taqwa. C'est là qu'il a atteint la taqwa et c'est là qu'il est protégé du rafla, de l'insouciance. C'est là qu'il est protégé du nifar, de l'hypocrisie. C'est là qu'il est protégé du riya, de l'ostentation. C'est là qu'il est protégé du sum'a, du shuhra, de toutes ces maladies spirituelles qui nous persuadent qu'on est dans le droit chemin mais qu'en fait, qui nous plombent, qui nous empêchent d'avancer vers Allah Azza wa Jal, qui nous donnent cette impression que je suis quelqu'un de bien, je m'habille bien, j'ai une grande barbe, je descends d'une grande famille, j'ai le Coran dans mon cœur, j'ai telle sifat, telle qualité, je suis présent, j'ai donné, j'ai participé à la construction de la mosquée, mes enfants font hifz le Coran, je suis quelqu'un de bien, j'ai presque la yaqeen, conviction que quand je meurs, je vais dans le Jannah. Mais il y a tellement de maladies spirituelles qui m'empêchent d'avancer. Et c'est ces mêmes maladies spirituelles, ces mêmes naqs, ces mêmes manquements qui risquent de me rattraper le jour de Qiyamah. Et au moment où les gens ils ont franchi le sirat, au moment où il y a les qanatir, c'est là que ces péchés risquent de me rattraper et que je vois leurs conséquences, qu'Allah nous protège. Mais à partir du moment où la personne fait la relation directe entre ce dunya et le akhira, à chaque instant il a ce qu'on appelle muraqabatullah, cette personne, inshallah, il va atteindre la haqiqatul iman. La taqwa, les ulama, rahimahumullah, disent, c'est une qualité, c'est une qualité de la relation avec Allah Azza wa Jal. Les gens parlent souvent de label, de qualité, dans toute chose. Il y a le produit, mais après il y a le produit de qualité. Ça se distingue. C'est plus cher, c'est mieux, comme on dit en créole, les plus meilleurs, parce qu'il y a tel avantage. C'est comme ça, c'est la chaîne de production a été vérifiée. Bref. Mais la taqwa, c'est une qualité de relation avec Allah. Chaque croyant a une relation avec son Seigneur. Mais il y a une différence dans la relation d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu avec Allah et ma relation avec Allah. On est tous d'accord. En termes de temps consacré et en termes d'intensité de cette relation avec Allah. Quand je fais 2 unités de prière et que Omar ibn Khattab faisait 2 unités de prière, on a lu Al-Fatiha, Qul ya ayyuhal kafirun, et la deuxième rak'a Al-Fatiha et Al-Ikhlas, pareil. Notre tahiyat c'était pareil, mais shatani bayna hada wa hada, un monde de différence entre les deux, parce que lui sa salat était basée sur une iman, une foi en Allah qui dépasse tout ce que je peux rêver, tout ce que je peux concevoir, parler, expliquer, décrire. Les ulama disent que la qualité de la relation avec Allah Azza wa Jal se base sur 4 points. Ça, je vous dis, il faut bien suivre le fil. Hein. Ça se repose sur 4 points. Muraqabatullah. C'est quoi muraqabatullah? C'est la pensée d'Allah permanente. Au sens propre de muraqaba, c'est une pensée d'Allah permanente. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas répéter. C'est à chaque instant, je pense à Allah Azza wa Jal. Et quand je dis je pense à Allah, ce n'est pas je fais tourner un tasbih dans ma main, subhanallah, alhamdulillah. Parfois quand on est dans les centres commerciaux à Jeddah et tout, on voit des jeunes des shabab avec le tasbih dans la main. Est-ce que c'est des dhakirin Allah kathira? C'est le style. C'est juste avoir un tasbih en main. Zikrullah, la pensée d'Allah permanente, ce n'est pas forcément prononcé. Parce que le zikr d'Allah, ce n'est pas uniquement avec la langue. C'est la pensée d'Allah dans le cœur. De quelle façon? qu'il n'y a pas un moment qui se passe sans que je suis en train d'analyser fait, mouvement, geste, parole. Est-ce que là, je suis de l'obéissance ou de la désobéissance? Ça, c'est ihsan. Ça, c'est le plus haut degré de foi. C'est que j'ai atteint un degré, c'est presque comme si que je suis en permanence devant Allah Azza wa Jalla. Et quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit l'ihsan, c'est « An ta'budallaha ka'annaka tarahu ». C'est quand je suis en train de prier. Là, je dis que dans ma vie, tous les jours, j'ai cette relation, j'ai cette présence d'Allah dans mon cœur en permanence. Mais que dire maintenant quand je prie, je dis « Allahu Akbar » et que je suis conscient que j'entame un dialogue avec Allah Azza wa Jalla à travers surat al-Fatiha. Quel degré de iman j'atteins à ce moment précis, subhanallah. Donc, ikhwani fillah, le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah, c'est une prise de conscience permanente que Allah Rabbul Izzah yasma' m'entend et me voit à chaque instant. Et donc, je ne peux pas me permettre le moindre faux pas. Il n'y a pas Ramadan et hors Ramadan et vie normale. Il n'y a pas Hajj et hors Hajj. Il n'y a pas Makka et Saint-Denis la Réunion. Il n'y a pas Madina et Saint-Pierre ou autre chose. C'est Ardullah, la terre d'Allah. Et le temps, c'est le temps qu'Allah m'a donné que je dois gérer jusqu'à mon retour auprès d'Allah Azza wa Jal wa Abud Rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à la mort. Et le credo de ma vie, c'est wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez ce jour, craignez wattaqu, la crainte. Parfois, on parle de la crainte d'Allah, mais on parle également de la crainte du juge, du jour du jugement dernier, c'est-à-dire du moment où on est ramené devant Allah. C'est ça notre crainte principale, c'est ça, je pourrais dire en extrapolant, notre obsession. L'obsession du croyant, c'est comment est-ce qu'on va me ramener devant Allah? Est-ce qu'Allah sera radin anni amla, content de moi ou non? Donc, les ulama disent que la taqwa et cette relation profonde et sincère avec Allah, elle est basée sur, premièrement, la pensée permanente d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, sur le muhasaba. En permanence, ça rejoint un peu le muraqaba, je suis en train de faire mes propres comptes. Umar ibn Khattab disait, hasibou anfusakum qabla an tuhasabou. Faites vos comptes vous-même, avant qu'un jour on fasse vos comptes, c'est-à-dire le jour de Qiyam, que chaque fois je suis capable de faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, de ma journée, pardon. Est-ce que j'ai fait de bonnes heures ou de mauvaises actions? Comment est-ce possible qu'un mu'min va se coucher avec des péchés cumulés le matin pour lesquels il n'a pas demandé tawbah? C'est-à-dire qu'il va les garder? Tu en as l'intention de garder ses péchés et tu en as l'intention de les amener donc avec toi de la tombe et d'être ressuscité avec ses péchés et tu en as l'intention, tu es d'accord de te présenter devant la balance et devant le tribunal avec ses péchés. Celui qui ne pense pas une seconde à son propre hisab, il y a au milieu de tous les jours, c'est quelqu'un qui est rafil. C'est quelqu'un qui fait partie des insouciants et qu'Allah nous protège de ça. Donc deuxième qualité que je dois développer pour atteindre la taqwa, c'est al-muhasaba. Troisième qualité, al-ihtisab. Ça, c'est une qualité qui nous permet de faire le lien entre les amal, les actions et l'ihtisab. Les ulama disent que c'est quand tu accomplis une bonne action, tu es persuadé qu'est-ce qu'Allah va me donner. Et quand tu es face à un péché, tu es persuadé quelles sont les conséquences de ce péché. Maintenant, un homme saint d'esprit qui sait qu'est-ce qu'Allah va lui donner à travers ses bonnes actions, est-ce qu'il ne va pas l'accomplir? Sans le moindre doute, il va le faire. Et l'homme saint d'esprit qui connaît que les conséquences de l'adultère, c'est ça, jour de Qiyam, est-ce qu'il va tomber de ce péché? Abadan wallah. Vous voyez, ça, ce sont des bases, ça, ce sont des cadenas, ce sont des subhanallah, c'est des pare-feux qu'on installe autour de notre iman pour les protéger contre les attaques intimes, je dirais. J'utilise le mot les attaques cachées, même intimes de Shaytan, qui va nous ronger de l'intérieur, qui va ronger ce iman. Et quatrième qualité que je dois développer, c'est huf. Husnul dhanni billah, la bonne pensée, la pensée positive d'Allah Azza wa Jal, et ça passe par la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Hada. Et de cette façon, on arrive à la taqwa et au plus haut degré de ihsan, et là on arrive à développer cette relation profonde et permanente avec Allah Azza wa Jal. Donc à travers cette introduction, donc qui était une introduction, on se rend compte qu'il y a un décalage entre le fait d'accomplir beaucoup de choses, beaucoup de bonnes actions, et le fait d'atteindre la réalité de la foi. Et notre objectif, ikhwan ya khawati fillah, n'est pas donc de faire un ramadan parfait, rempli de bonnes actions. Là, wallah, ça serait idéal, ça serait bien. Notre objectif, c'est une vie parfaite, une vie remplie de bonnes actions, il al maut, jusqu'à ce qu'on nous ramène auprès d'Allah Azza wa Jal. Et cela, on ne peut pas le faire uniquement avec 50 ramadans de ma vie, ou avec 10 hajj, ou 15 umrah, ou 40 khatm al-Qur'an ou plus. Ça, c'est l'effort d'une vie basée sur une compréhension saine de la religion. Une fusion parfaite entre iman et islam. entre iman et islam. Et le hadith Jibril, c'est le hadith qui nous intéresse. De le hadith Jibril, le prophète alayhi salat wa salam nous expose la relation qu'il y a entre islam et iman. C'est de la fusion entre ces deux termes qu'on produit le mu'min mukhlis, le musulman clairvoyant, ala basira, qui a tout compris de sa vie. Celui qui fonce vers islam sans comprendre iman, il ne s'en sortira pas. Celui qui fonce vers iman uniquement, que des croyances, et lui il ne fait aucune bonne action, on a tous compris, ça c'est un cas qu'on comprend mieux, la personne n'obtiendra rien de la part d'Allah Azza wa Jal. Et donc pour développer cette relation saine, sincère, permanente avec Allah Azza wa Jal, on a dit on a besoin de bases solides, un socle spirituel qui ne s'obtient pas uniquement par des bonnes actions, mais par un cheminement. C'est le même cheminement que les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, ils ont fait pour obtenir ce degré de iman. On doit donc emprunter le même parcours spirituel des sahaba. Et quand on lit la sirah, qu'on étudie comment est-ce que l'islam a commencé, par ordre chronologique, qu'est-ce qu'ils faisaient les sahaba, on se rend compte que les sahaba ont appris le iman, la foi, pendant combien d'années ? 13 années. Mais c'est ce qui est en même temps erroné, de dire qu'ils ont appris 13 années la foi et les actions après. Ce n'est pas vrai à 100% non plus. Parce qu'ils ont appris les bases du iman pendant 13 ans et ils ont ensuite perfectionné, peaufiné ce iman pendant les 10 années à Al-Madinah Al-Munawwara. L'apprentissage du iman, c'était du début jusqu'à la fin et ça ne s'est jamais arrêté en fait. Pendant le Ahd al-Nubuwa, ça ne s'est jamais arrêté et ça s'est amplifié quand les a'mal étaient révélés. Ça a donné encore plus d'ampleur à ce iman. Mais comprenez que le iman, c'était le terreau, c'était le socle spirituel sur lequel les actions venaient se greffer et que les actions prenaient réellement l'ampleur et apportaient les objectifs, les maqasid. Parce que c'est ça qui nous manque de notre vie. Les maqasid, l'objectif des actions, on ne les retrouve pas de notre vie. C'est parce qu'il n'y a pas le socle spirituel. Donc les sahaba, ils sont passés par ce cheminement. Et dans le hadith Jibril, qu'on va essayer de voir dans un instant, on va comprendre que s'il n'y a pas iman, ben, les actions ne prennent pas réellement leur sens, même s'ils ont été accomplis, même si le devoir est accompli. Et quand on lit les versets du Coran, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, on voit « Inna alladhina amanu » toujours accompagné de « Wa aminu salihat » mais on ne voit pas « Inna alladhina aminu salihat wa amanu » On est d'accord ? Il n'y a pas ceux qui ont accompli de bonnes œuvres et qui ont la foi. C'est toujours dans ce tartib, ceux qui ont la foi et accompli de bonnes actions. Les Moufassis disent qu'il y a deux choses. Il y a le mot « wa » et « c'est-à-dire c'est accompagné. Et deuxième chose, il y a le tartib. Iman, ensuite les bonnes actions. Idéalement en même temps, mais s'il n'y a pas la base, la foi, on n'avance pas. Hada. Et donc, celui qui fonce vers les bonnes œuvres sans connaître Allah, les manaïka, les livres, les rusul et le jour du jugement dernier ainsi que le tafdir, cette personne ne comprend pas la réalité des a'mal et ce serait vraiment dommage. Alors, notre objectif à travers ce mois de Ramadan, à travers 3 ou 4 interventions, c'est d'essayer de nous ramener, c'est d'essayer de parler, c'est pour moi en premier, de parler des réactions du croyant qui vont lui permettre des actions à accomplir pour un retour sain, sincère, mustaqim vers Allah Azza wa Jal, que la période qui va suivre le Ramadan nous permet vraiment de démarrer une nouvelle vie, une nouvelle relation avec Allah Azza wa Jal. La semaine dernière, tampon, on avait abordé l'importance de at-tadabbur bil Qur'an, l'importance de créer une relation avec le Qur'an. Et là aussi, on a différencié celui qui lit beaucoup de juz de celui qui lit un peu moins, mais qui médite, qui comprend et qui fait amal. On a expliqué à travers Alif Lam Mim l'importance de s'accrocher au verset du Qur'an. La semaine prochaine, si Allah nous permet à Saint-Pierre, on va parler de l'importance d'étudier les versets qui décrivent les actions du croyant de ce monde et les récompenses dans le-delà. La situation du croyant de ce monde et la récompense de l'au-delà, afin qu'on arrive à faire le lien. Ce lien, si on ne le crée pas, on n'avance pas. Et Inch'Allah, par la suite à Saint-Louis, on va essayer, Inch'Allah, d'étudier Asma wa Sifat. Bon, on n'a pas annoncé encore au responsable de Saint-Louis, mais ce sera ça. Connaître Allah, connaître les qualités d'Allah, devant qui je me prosterne. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on essaie de voir Iman billah wa akhir, ça paraît un peu compliqué. On essaie de voir Iman billah. C'est quoi Aman tu billah? C'est quoi réellement la foi en Allah Azza wa Jal? Et pour comprendre l'impact de la compréhension saine de Al-Iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadri dans notre vie et dans nos actions, on prend un seul exemple, la salah. La vraie définition de la salah, les ulama disent, c'est al-qiyamu amam Allah, c'est se mettre debout devant Allah, celui qui nous a créés, celui vers lequel nous retournons, nous allons mourir, qui nous jugera le jour de Qiyamah, et je soumets l'ensemble de mon corps et mon esprit devant Allah Azza wa Jal, je m'en remets, je fais istislam, je m'en remets et je me courbe devant Allah Azza wa Jal. Et cette action me permet de rester éloigné des péchés dans la vie de tous les jours, tout comme j'arrive à rester éloigné des péchés durant la salat. Ça, c'est une définition complète de la salat. Quand on écoute cette définition, on se dit que c'est, elle est magnifique, c'est bien, c'est un idéal. Mais ensuite, quand j'analyse avec ma prière à moi, je me rends compte que ma prière, elle se résume à un gestuel, à de la lecture que j'accomplis juste avant que ça devienne qaza, pendant l'heure, parce que je me dois de m'acquitter de l'obligation. Et je me rends compte qu'à travers cette salat, je ne trouve pas l'épanouissement spirituel, je ne retrouve pas l'échange avec Allah. Je ne suis jamais posé la question du concept de l'échange avec Allah, de la communication avec Allah Azza wa Jal par le biais de la salat. Et du coup, j'ai jamais vraiment compris que le prophète m'a dit que Allah a mis dans wa ju'ilat qurratu 'ayni fi salat, la fraîcheur de mes yeux, c'est la salat. Du coup, je comprends pas. Pourquoi la fraîcheur des yeux du prophète, c'est-à-dire le moment préféré de sa vie, c'est lorsqu'il était devant Allah. Et moi, quand je fais salat, je trouve pas que c'est mon moment préféré. Donc, j'arrive pas à intégrer ça. Et du coup, je comprends pas non plus. Lorsque dans les hadiths, il est écrit que le moment où le croyant est le plus proche d'Allah, c'est lorsqu'il est en sijda. J'arrive pas à comprendre. Je fais sijda, je dis 3 subhanallah, alors je fais un effort, je vais dire 7 fois subhanallah, mais en finalité, je ressens rien de spécial. C'est parce que cette salat-là ne m'a pas apporté ce qu'elle est censée apporter aux croyants et ce qu'elle a apporté aux sahaba, parce qu'à la base, je n'ai pas réalisé devant qui je me prosterne. C'est quoi la réalité de al-iman billah? Donc, connaître Allah, c'est asasul iman, c'est la base de la foi. Le prophète, alayhi salat, wa sallam, on va essayer de voir le hadith Jibril, ne serait-ce quelques instants. L'objectif, ce n'est pas d'expliquer le hadith Jibril. On l'a fait dans d'autres majalis en des mois. Ça a pris, biiznillah, beaucoup de mois. Quand on voit les commentaires des hadiths, hadith Jibril, c'est des livres qui sont écrits. Le but, c'est qu'on prenne conscience que j'ai besoin d'apprendre. Je dois aucunement me suffire de mes acquis. Je n'ai quasiment pas d'acquis. J'ai quelques acquis en termes de bonnes actions, mais en termes d'iman, je n'ai quasiment rien. Et il est extrêmement urgent que je m'y mette dès maintenant. Parce que si je ne m'y mets pas dès maintenant, mon après-Ramadan, ce sera comme l'après-Ramadan 2014, 2013, 1999, 1980. C'est-à-dire, je retourne au point zéro. Je n'avance pas. Et je vais continuer à retourner au point zéro, 2015, 2020, 2050, jusqu'à ce qu'un jour on vienne reprendre mon corps et on me donne le bain mortuaire ou la tanière et on m'enterre de le Kabristan et je serai toujours au point zéro. Sauf si j'ai la chance de mourir durant le mois de Ramadan. Ça veut dire que ma vie risque d'être un échec. Un échec en termes de taqarrub ilallah, de rapprochement vers Allah Azza wa Jal, parce que comme je n'ai pas les bases de iman, je ne réalise pas c'est quoi les bonnes actions, c'est quoi la relation avec Allah. Et donc l'objectif c'est de prendre conscience à travers quelques explications, même si on n'a que 15 minutes, parce qu'on a commencé à 10h40, même si on n'a que 15 minutes, mais comprendre qu'on a besoin de connaître qui est Allah et on a besoin de connaître c'est quoi le jour du jugement dernier. Hadith dans lequel le prophète alayhi salatu salam explique, il y a une scène, Umar ibn al-Khattab dit que baynama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je résume, le hadith est très long. Une personne est venue dans la masjid Nabawi et habillée de blanc, d'une grande beauté, avec des cheveux très noirs, et c'était un étranger, on ne le connaissait pas, mais en même temps il n'y avait aucune trace de voyage, de safar. Il a enjambé les rangs. Il est venu s'asseoir directement auprès du prophète sallam, il a mis ses mains sur les genoux du prophète sallam, il a dit « Ô prophète d'Allah, akhbirni, explique-moi c'est quoi l'islam ?» Le prophète sallam a expliqué l'islam, c'est croire en Allah, c'est l'accomplissement des prières, les cinq piliers de l'islam qu'on connaît. Ensuite la personne dit « Sadaqta, tu as dit vrai. » Le sahaba dit « Comment ça? À quoi il joue ?» Il pose une question, il dit « Tu as dit vrai ?» Astaghfirullah, il vient tester le prophète sallam, ensuite cette personne dit فأخبرني عن الإيمان. C'est quoi la foi? Le prophète dit al-iman c'est تؤمن بالله وملائكته, les six piliers de la foi qu'on connaît. La personne dit أحسنت. Il pose une troisième question فأخبرني عن الإحسان. Ça c'est un peu plus intriguant quand même. Ça nous aurait aimé qu'il donne bien explication. Et le prophète l'a fait. C'est quoi l'ihsan? Le prophète dit al-ihsan أن تعبد الله كأنك تراه. Tu adores Allah comme si que tu es en train de voir Allah. Tu montres Allah ton envie de te rapprocher de lui. Le seul devant qui on peut faire preuve d'ostentation, l'ostentation autorisée, c'est devant Allah. On parfait nos prières pour qu'Allah voit que j'ai de la bonne volonté. Mon sidda, oh Allah, c'est pour toi. Ça, c'est les plus hauts degrés de iman. Et si tu ne vois pas Allah, ben, sache qu'Allah t'observe en permanence. Et ensuite, il a posé d'autres questions sur le qiyama, et ainsi de suite. Et ensuite, la personne dit, c'est bon, il est parti. Et le Prophète a demandé à Omar, oh Omar, c'était qui? Le Prophète a dit que c'est Jibril qui est venu vous enseigner. Yu'allimukum amaradinikum. J'ai fait une petite recherche ce matin. On sait que ce hadith, c'est à Madina Munawwara. Mais à quelle époque? Au début, au milieu, avant Badr, après Badr? J'ai fait une recherche ce matin avec quelques collègues. Alhamdulillah, il y en a qui m'ont répondu que ce hadith, c'est intervenu peu avant le décès du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin de la prophétie, pour raffermir ces bases du iman. Pensez-vous que les sahaba, ils ont besoin de savoir c'est quoi les piliers de l'islam, c'est quoi les piliers de l'iman? Si je vous dis, bon, on va s'asseoir, on va apprendre les six branches de la foi, c'est comme dire, attends, vous prenez pas des enfants là? Ça, c'est à la madrasa, c'est les petits qui ont 10 ans qui apprennent ça. Ils apprennent kalima aman, tawbillahi, omana, ikati. Nous, on a besoin d'autres choses, on a besoin de trucs plus spirituels. Et l'ange Jibril vient voir An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Madina al-Munawwara, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Les sahaba dit, voilà iman, c'est ça. Ça veut dire, n'oubliez jamais que votre réussite est basée sur la maîtrise des branches de la foi. N'oubliez jamais que la réussite est basée sur la maîtrise des piliers de l'islam. N'oubliez jamais que pour connaître l'émancipation spirituelle, ça passe par ça, et ça, ça va déboucher islam et iman sur ihsan, sur le plus haut degré de iman. Donc l'ange, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il répond à l'ange Jibril, il dit que l'iman, c'est croire en Allah. Les ulama disent, c'est quoi le mot iman? Iman, c'est la conviction dans le cœur. Elle dit que quand on dit que aman tu billah, on a une telle conviction en Allah Azza wa Jal que cette conviction, elle est inébranlable. Elle dit, c'est exactement, exemple un peu décalé, mais ça nous donne une possibilité d'entrevoir la puissance du mot iman plus fort que tasdik. C'est pas croire, c'est une acceptation mal iqrar. Elle dit que c'est comme si que on habite ici, on connaît qu'il y a un soleil dehors, je ferme les nakos, je baisse les volets, ainsi de suite, et est-ce que le fait que je ne vois plus le soleil, à un moment donné, je vais me dire que peut-être qu'il n'y a pas de soleil. N'importe quoi. Le soleil dehors, on le sait. On ne le voit pas, mais on le sait. C'est un exemple. Les savants disent que quand on croit en Allah, si on y croit fermement, quelles que soient les circonstances, les difficultés, le contexte, l'époque, les fitnas, les péchés, mon iman en Allah, il est inébranlable. S'il y a bien une chose en laquelle je crois dure et ferme, c'est en Allah. Et ça, on peut me tuer, on peut enlever mon cœur, on peut reprendre ma vie, on me torturer, j'abandonnerai jamais iman ou billah. Je crois en Allah. Ça, c'est la définition du iman. « Antu'mina billah » c'est croire que Allah est éternel. C'est être persuadé qu'Allah est « alim ». Allah, c'est celui qui a la connaissance de tout. Allah, Azza wa Jal, c'est « il est qadir ». Allah est capable de tout. Allah, c'est « Rabbul Alamin ». C'est le Seigneur des mondes. Tout ce qui nous entoure, tout ça a été créé par Allah, Azza wa Jal. Allah, Rabbul Izzah, c'est « al-malik al-mutlaq ». C'est le maître de ce dunya. « Et malik yawmiddin », le maître du jour de la rétribution. Il n'y a pas une personne qui peut aller dans le Jannah sans l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas une personne qui est punie dans le Jahannam sans l'ordre d'Allah Azza wa Jal. وَلَهُ الْحَمْدُ الْمُطْلَقُ. Toutes les louanges reviennent à Allah et à Allah seul. C'est exactement ce que je dis. يَوْمِيًّا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Si je savais le poids de Surat al-Fatiha, on ne va pas sortir du sujet, mais أَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَيْ لِلَّهِ وَحْدَ. Les louanges reviennent uniquement à toi, ô Allah. Donc quand je dis Alhamdulillah, mon cœur doit frémir. Quand je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, je sens qu'ô Allah, toutes les louanges te reviennent à toi, ô Allah. Ni'ma, merci pour ces bienfaits, iman, islam, siha, tout ce que tu nous as accordé. Toutes les louanges te reviennent, Allah, à toi seul. Wa ilayhi yurja'u al-amru kullu. Et qu'en finalité, tout revient vers Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas une personne qui reste de ce dunya éternellement. Toute personne quitte ce monde, et pas seulement quitte ce monde en finalité, tout le monde retourne auprès d'Allah Azza pour les comptes. Wa huwa al-mustahiq lil-ibada. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Le culte, c'est uniquement pour Allah Azza wa Jal. L'ibada, c'est uniquement pour Allah Azza wa Jal. Wa alayhi tuklan. Notre confiance, elle est uniquement en Allah Azza wa Jal. Wa minhu nasru. L'aide. On a besoin d'aide, on a une difficulté, on demande l'aide uniquement à Allah Azza wa Jal. Wa tawfiq. C'est uniquement Allah qui accepte qu'il veut. Pour les bonnes œuvres, pour le paradis. Donc nous devons de nous humilier, de nous rabaisser devant Allah pour qu'Allah Rabbul Izzah veuille bien nous accepter malgré nos manquements, malgré nos péchés. وَأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُتَّصَفْ بِكُلِّ صِفَاتِ الْكَمَالِ. Que toutes les صِفَاتِ parfaites sont à Allah Azza wa Jal. Comme Allah Rabbul Izzah dit, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Il n'y a rien qui est comme Allah Azza wa Jal. Ça c'est petite introduction, les savants disent, ça nous permet d'avoir une première idée sur quelques qualités d'Allah Azza wa Jal. Et pour comprendre maintenant, ça c'est malheureusement le point qu'on doit zapper, pour comprendre ces qualités d'Allah, ben là il y a besoin de dirasa, d'étudier les sifats d'Allah Azza wa Jal. Et les savants disent que la personne qui a appris ne serait-ce quelques sifats d'Allah, même si dans notre cheminement on va prendre un peu de temps, mais déjà on commence par Sami', Allah entend tout, Basir, Allah voit tout, Alim bi dhati as-sudur, qu'Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur, Ala kulli shay'in qadir, capable de tout, qu'Allah il est responsable de tout, Ala kulli shay'in wakil, assurément quand je fais le sejda, ce sejda là c'est plus le même qu'avant. C'est ce qu'on parle d'un renouveau de la foi. À partir du moment où le iman s'installe dans la foi, les actions qu'on accomplit au quotidien n'ont plus le même impact. On aura un autre regard sur l'accomplissement de chacune de ces bonnes actions. Même quand je jeûne, quand j'ai mal à la tête, j'ai faim, je dis que non, je vais pour Allah. Il y a celui qui dit que j'ai faim, bon, on attend, il reste encore 5 heures de temps. L'autre qui dit que Alhamdulillah, ça c'est un sacrifice pour Allah. Allah me donne la possibilité de faire un petit mujahada. Les sahaba, ils ont donné leur vie, leur bien, leur temps pour Allah Azza wa Jal. Quel sacrifice je fais? Si ça c'est un mujahada, c'est peut-être par ça Allah m'accepte. Allahu Akbar. J'ai mal à la tête de 16h à 18h, j'attrape ma tête, j'en peux plus. C'est peut-être par ça qu'Allah va m'accepter. Mais cette réalité là, cette prise de conscience, comme la prise de conscience du sijda, comme la prise de conscience du tawaf, comme minan nas, combien de personnes font le tawaf sans comprendre ce qu'ils font? Ils tournent en rond, excusez-moi l'expression, c'est ça. Ils tournent en rond, ils ne comprennent pas c'est quoi le sens du tawaf. Combien de personnes ils sont à Arafat, ils ont les moyens, ils ont payé 7000 euros, ils y sont. Mais ils ne comprennent pas, ils font doigt, ils voient les gens faire doigt, ils s'ennuient, ils cherchent la connexion, il n'y a pas de réseau ici, ils vont se promener, ils vont chercher de l'eau glacée. Nous, on voit ça. C'est combien de personnes n'arrivent pas à se connecter avec Allah? Pourquoi on arrive? Ça c'est adab ça. Moi j'appelle ça adab. Ça c'est terrible. C'est terrible de voir que la connexion ne passe pas, on n'arrive pas à s'accrocher avec Allah Azza wa Jal dans aucune des actions. Dans ma salat, je ne m'accroche pas à Allah. Dans mon saum, je ne m'accroche pas à Allah. Dans mon hajj, je ne m'accroche pas à Allah. Devant la Kaaba, devant Multazam, j'ai tapé 15 personnes, je suis devant Multazam. Le Bouktan nettoie Masjid Haram, il pleure comme un enfant. Et moi, il n'y a pas une larme qui coule de ses yeux. Je suis comme une pierre. Je suis plus dur que la pierre noire. Khasara. C'est une torture, ça y croit, Anifillah. C'est parce que j'ai jamais compris, j'ai jamais connu qui est Allah Azza wa Jal. On tient le signal d'alarme, sonnette d'alarme. On doit faire le maximum d'efforts maintenant. On a appris la jurisprudence, mashallah. Apprenons qui est Allah. Étudions les qualités, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ce sijda, ce rukou'a, wallahi l'azim, ne sera plus jamais le même. Et on zappe. On arrive vers une deuxième conclusion, les savants disent que quand la réalité de ce iman ou billah entre dans le cœur, qu'est-ce qui va s'installer dans le cœur? Ta'zimullah. C'est quoi ta'zimullah? Celui qui a eu ta'zimullah dans son cœur, Allahu Akbar. C'est la personne qui a vraiment la grandeur d'Allah dans son cœur. Et quand il y a grandeur d'Allah dans son cœur, est-ce que la grandeur des créatures reste dans ce cœur? Abadan wallah. Et quand ta'zimullah rend le cœur, ikhwani, chaque point mérite de développement, mais ça, il y a des kutub. Quand ta'zimullah rend le cœur, qu'est-ce qui rentre également dans le cœur? Hubbullah, l'amour d'Allah. Et quand l'amour d'Allah rend le cœur, est-ce qu'il y a encore un penchant pour le haram? Na'oudhu billahi minash shaitan rajim. Quand j'aime Allah plus que tout au monde, est-ce qu'il y a encore une place pour le dunya? Est-ce que je vais mettre une place pour l'argent haram dedans? Est-ce que je veux dire je vais emprunter l'argent avec la banque pour acheter telle chose parce que c'est important avec l'intérêt? J'ai besoin de ça. Tu as l'amour d'Allah dans ton cœur. Il n'y a plus rien qui rentre de ce cœur. Il n'y a plus rien d'extérieur. Et celui qui meurt avec ta'zimullah et hubbullah dans son cœur, ça c'est iman kamil. Ça c'est iman sahih. Ça c'était comme iman de sahaba. Et cela va se répercuter directement sur ta salat, sur le rukou, ton sijda, ton hajj, ton ramadan, sur ta vie de croyant. Tu deviendras le meilleur des hommes. Ala sirat al-mustaqim. Allahumma ja'alna minhum hada. Dans le Coran, sur la Baqara, minan nas, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ceux qui ont la foi, une des qualités, c'est ils ont un amour parfait pour Allah. Si on devait prendre un testeur d'amour pour Allah de nos cœurs et voir combien d'amour d'Allah on a de notre cœur, Allah nous protège, Allah nous pardonne, et que jamais on puisse voir notre iman, autrement ce serait une catastrophe. On se dit qu'on prend le chemin du jahannam directement. Et c'est vraiment qu'Allah ait pitié de nous. C'est qu'il y a ce la ilaha illallah Muhammad dans le cœur et qu'on fait partie de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Autrement il n'y aurait pas eu cette rahma, cette pitié sur nous. Donc pour arriver à ce cheminement, les savants disent, je vous donne juste les titres. Il aurait fallu 2h30, peut-être 3h aussi. Premièrement, al-yaqin, essayez de voir les versets où on parle de la grandeur d'Allah. Il y en a tellement, je ne sais pas par quoi commencer. On va voir un hadith dans lequel le Prophète dit « Inna samawat sab' wal aradin sab' bin nisba lil kursi ka halaqatin ulqiyat fi falati min al-ard » hadith apporté par Bayhaqi, dit que la grandeur, une image, on ne peut pas connaître comment est Allah, ça c'est impossible. Mais pour réaliser que tout ce que nous voyons, nous contemplons de magnifique, c'est un grain de sable par rapport à la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Dit les sept cieux, et on ne connaît même pas comment est le premier ciel. On parle des sept cieux, ainsi que les terres et tout ce qui contient, par rapport au kursi. On connaît tout le kursi. Par rapport au kursi, c'est comme halaqa. Halaqa, c'est comme une petite bague ou l'anneau. Comme si vous prenez une petite bague et vous le jetez dans un champ, dans un champ vaste, sur un terrain vague. Elle dit ça, c'est les sept cieux et les sept terres par rapport au kursi. Juste pour avoir une idée de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Si on devait aller dans ce cheminement, lorsque le Prophète Sallam décrit les Hamalatul Arsh, les anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal, Allah n'a pas besoin d'eux. Et Allah n'a pas besoin d'eux, parce que le Qiyamah, eux aussi, ils vont mourir. Il dit, Bayna shuhmati udhunayhi, entre eux, et ça c'est des descriptions propres aux anges qui ne sont pas en rapport avec nous, entre eux, cette partie du corps, au niveau de l'oreille et la nuque, et dans certaines sources, on parle entre le talon et la cheville, masirat khamsmiyat am, distance d'un voyage de 500 années. Juste pour avoir une idée de la grandeur des makhlouqats de l'au-delà, et nous n'arriverons même pas à réfléchir sur la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Les savants disent également, il doit y avoir une prise de conscience que Inna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Essayez de comprendre c'est quoi le ilm d'Allah Azza wa Jal. Principalement, alimum bi dhati as-sudur. Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. À chaque fois que j'ai une mauvaise pensée, à chaque fois que j'ai l'envie, waswasa, envie de faire un péché, à chaque fois que dans mon cœur il y a des choses mauvaises qui s'installent, le seul qui connaît c'est Allah Azza wa Jal. Ça nous ramène vers le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah. Attention que ce cœur reste pur. Quand je vais faire un péché en cachette, je vous donne un exemple, je suis en voyage, je vais à, je ne sais pas dans quel pays où il n'y a personne qui me voit, je fais un voyage d'affaires, là, ça c'est le plus dangereux, j'ai dit le plus cool, c'est le plus dangereux. Je suis en voyage d'affaires, j'ai laissé madame derrière, grand-mère, belle-mère et ainsi de suite, personne ne me voit, je suis un étranger, gharib. Ben quand tu es un étranger, tu fais une petite bêtise, personne ne connaît ton histoire ou ton origine, ta famille. C'est comme si on est en freestyle un peu. Mais dans ce moment-là, Inna Allah alim bi dhati as-sudur. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Allah c'est tout, Allah c'est ce qu'il y a dans le cœur. Inna Allah sami' basir. Allah voit, Allah entend. Donc quand on développe ça, subhanallah, on arrive à une vie de droiture. Les savants disent que j'arrive à une situation où je vais faire réellement istislam ou lillah. On dit souvent ce terme dans d'autres programmes, on parle de al-muslim man istaslam nafsahu lillah. Celui qui s'est soumis à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie, c'est comme si qu'on vit en sejda devant Allah. C'est pas mu'aqqatan, parfois oui, parfois non. C'est ma vie, qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati. C'est pour qui? Tout est pour Allah Azza wa Jal. La soumission totale en Allah ne peut se produire. On pourra y croire parce que soit on y croit, soit on n'y croit pas. Si on n'y croit pas, on va aller vers le dunya. C'est tout à fait normal. Quand est-ce qu'on va croire, on va intégrer que je vis pour Allah, mon cœur bat pour Allah, j'appartiens à Allah, l'objectif c'est qu'Allah soit content de moi. Je retourne vers lui. Quand est-ce que j'intègre ça? À partir du moment où j'ai créé une connexion avec Allah. Il n'y a pas de connexion avec Allah, les jawarih ne vont pas répondre. Les actes ne répondront pas. Si le cœur n'est pas persuadé, ne cherchez pas les a'mal. D'où l'importance, je me répète, hein, mais je suis frustré par rapport au temps. Encore une fois, on insiste sur al-iman billah, l'importance de développer la foi en Allah. Les savants disent développer les versets en rapport avec Allah, il entend tout, voit tout. Ça, je viens de le dire. De qudratihi, la qudrat d'Allah Azza wa Jal. Vous êtes dans une situation de difficulté. Pensez comment Allah Rabbul Izzah a aidé Moussa alayhi salam, a aidé différents biens alayhi salatu wa salam. Et là, vous réalisez qu'inna Allah ala kulli shay'in qadir. Il y a des gens qui, dans une situation, après un décès ou après une période difficile, des personnes vont connaître une phase de déprime ou ils vont devoir prendre des médicaments, être hospitalisés, nasallahu alayhi wa sallam, ou parfois pire. Est-ce que ces personnes, à un moment donné, ils ont pensé qu'inna Allah ala kulli shay'in qadir, que celui qui a envoyé l'épreuve c'est Allah, le seul qui peut reprendre l'épreuve c'est Allah. Quand quelqu'un a intégré inna Allah ala kulli shay'in qadir, inna Allah ala kulli shay'in wakil, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui organise tout, ben, je vous assure, cette personne vit le cœur léger, quelle que soit la nature des épreuves. Et le fait de développer subhanallah inna Allah ala kulli shay'in qadir et wakil, ça vous amène vers al-iman bil qadri khayrihi wa sharrihi, la foi sur le destin. Tu comprends la foi sur le destin parce que tu sais que c'est pas dans nos mains, tout est dans les mains d'Allah azza wa jalla. Tu deviens une personne parfaite sur le plan spirituel, mais également dans tes relations avec les gens, ça devient parfait parce que tu as le cœur apaisé. Tu deviens, comme on dit, zen. Tu sais que les choses se produisent par ordre d'Allah. Ensuite, il y a mes doigts, il y a mes efforts et en finalité, tout est dans les mains d'Allah Azza. Tu ne te prends pas la tête. En commentaire, il dit également, waouh, ça c'est une magnifique conclusion. Il a dit, quand on a développé tout ça, إذا أمنت بعلم الله وقدرته وسمعه وبصره إلى غير ذلك أوجب لك ذلك, à ce moment-là, tu fais mura'at, tu penses à Allah en permanence. Et donc la réaction, maintenant comment ton corps va réagir? Quand ton cœur est persuadé, comment les jawarih, ton corps va réagir? وَأَلَّا تُسْمِعَ إِلَّا مَا يُرْضُي بِهِ. Tu vas faire en sorte que Allah n'entende que ce qui le plaît de toi. Qu'Allah ne te voit que dans des situations où Allah Azza wa Jal est satisfait de toi. C'est une situation de istislam, de soumission totale à Allah Azza wa Jal. Et c'est là que je ressens, et c'est là que je retrouve le sens de التذلل والخضوع. التذلل والخضوع, ce sont deux qualités qu'on doit retrouver dans chaque bonne action. La soumission à Allah, et la reconnaissance de du rububiyya du luhiyya d'Allah Azza wa Jal. Cette soumission totale à Allah dans chaque bonne action, je le fais pour Allah, c'est l'ordre de mon Seigneur, je le fais et je l'obéis. Cette sensation-là, qui est différente de celui qui prie ou qui fait des bonnes œuvres par héritage culturel, ça on le comprend quand la réalité de Amantu Billah a enfin pénétré dans le cœur. Et ensuite, il conclut avec wa min al-iman billahi an ta'lam annahu yaraka fa illam takun tara fa innahu yara. Là, il va directement celui qui a commenté ce hadith, il va directement vers le hadith d'Ihsan, il dit que à un moment donné, si tu fais ce cheminement et que tu vas obtenir ces qualités, on est encore loin. Donc quand tu pries là, tu vas tellement t'appliquer. Pourquoi tu vas tellement t'appliquer? On avait un majlis de jeunes la semaine dernière. Une question qui est venue d'un jeune qui n'a pas, c'est pas le jeune grand barbe, turban, le gars est à fond. Il me posait une question, ça m'a remis moi-même en question. Il m'a dit, Moïse, ça a un problème, mais il n'est pas concentré comme fait namaz. Je me suis dit que cette question, elle est magnifique. Et cette question m'a laissé un peu bouche bée pendant quelques instants. Je m'attendais au zina, l'alcool et tout. Il m'a posé comment, pourquoi est-ce que j'arrive pas à me concentrer de namaz? Et subhanallah, pour obtenir ce niveau de concentrance, ainsi de suite, tout ça va passer par le ihsan. Comment se concentrer dans la salah? Quand je fais ce cheminement, j'arrive au degré de ihsan. Quand je prie, je suis sûr que Allah est en train de m'observer. Et c'est comme si que je vois Allah parce que je le connais, subhanallah. Et là, je fais preuve d'ostentation positive auprès d'Allah. Je montre à Allah ma bonne volonté, tout ce que je suis prêt à faire pour Allah Azza wa Jalla. Après, il y a les autres branches de la foi. Mashallah, notre amir est venu, ce qui est synonyme de la fin du majlis. Mais on a commencé un peu en retard, même petit décalage horaire. On a commencé à 10h45. Donc là, on est à 1h et on va conclure, Inch'Allah. Maintenant, si on a pu, Inch'Allah, on fait tous l'intention, à partir de, après le Eid, on va essayer d'apprendre les qualités, les sifats d'Allah, connaître Iman Billah auprès de nos savants. Auprès de ulama, on ne va pas les chercher par internet, nous on ne s'en sortira pas, on va trouver mille interlocuteurs et pas toujours des personnes fiables. On se rapproche de ulama, dit qu'on a besoin d'étudier, de connaître Iman Billah. J'ai besoin de ça parce que si je n'ai pas ça, mon cœur sera vide et mes actions seront vides également. Ensuite, avec ça, idéalement, travailler Iman du Malaïka. On ne va pas développer Iman du Malaïka, on n'a que 10 minutes, mais réalisons, ikhwan et akhawati fillah, que deux choses. Ou alors une seule chose, que Allah Azza wa Jalla, le Coran, wa inna alaykum la hafidhan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'al. Des versets que nous connaissons en général. Que chaque homme, chaque être humain a avec lui deux anges qui inscrivent ses actions, bonnes comme mauvaises. Qui dans ce majlis, on va demander, lever le doigt. Qui ne savait pas que pour chaque être humain, il y a deux anges qui inscrivent les actions bonnes et mauvaises? Tout le monde le sait, on enseigne ça aux enfants en classe 2, en classe 3. Mais entre le fait de savoir et al-iman bihi, et être conscient, shattani ma bayna hada wa hada. Il y a une distance comme le Mashriq et le Maghrib, l'Occident et l'Orient. Celui qui prend le chemin vers le haram, celui qui décide délibérément de ne pas prier, ou qui décide d'aller voir ses parents pour leur dire des paroles désobligeantes, pour ainsi de suite, est-ce qu'à ce moment, il a iman bil malaïka? Il a 0% d'iman bil malaïka. Ne parlons plus de hamalatul arsh, il n'y a même pas besoin de décrire les portes, les anges qui portent l'arche d'Allah, de Jibril, de Mikaël, d'Israfil. L'ange qui est là, anil yamin ou anil shimal, tu n'y crois même pas, akhi. Ourti, tu n'y crois même pas. Tu sais qu'il y a le concept ange, mais tu n'y crois pas une seconde. Parce que si tu y croyais, tu te mettrais jamais dans une situation où tu vas délaisser l'ordre d'Allah, où tu vas délibérément désobéir à Allah Azza wa Jal. Ça, ce serait une seule chose qu'on pourrait, essayer de comprendre, hein, réaliser comment on n'a pas réellement iman bil malaïka. Et le dernier point qu'on devait, subhanallah, aborder, c'était al-iman bil yawmil akhir. On laissera ça pour l'année prochaine, inshallah. Vraiment l'arrivée, ouais. Al-Iman bil Yawmil Akhir. Vous savez, les mufassirin disent qu'à chaque fois qu'il y a Iman billah de le Coran, il y a Iman bil Yawmil Akhir. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. Toujours iman billah accompagné iman bil yawm al-akhir. Et en conclusion, les savants disent biqadri imanika bil yawm al-akhir, en fonction de ta connaissance sur l'au-delà, en fonction de ta maîtrise des étapes de l'au-delà, tu vas augmenter ton iman en Allah et tu vas augmenter la qualité des arkans de l'islam, des piliers de l'islam, et ta relation avec Allah va se raffermir, va devenir correct, sincère, profond et mustaqim. Moins on connaît l'au-delà, moins on va voir la lumière de la foi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on meurt, après il y a un vide, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'après on est ressuscité, on est ressuscité. Et tous ceux qui ont la foi, ils vont dans le Jannah directement. Bireyri Hissab. Adieu. Si c'était aussi simple, pourquoi Salah, Zakar, Som, Tahajjud? C'est-à-dire, quand une personne ne connaît pas les étapes du Akhira, et si l'année prochaine on le verra, Inch'Allah, les étapes du Akhira, c'est vraiment les pires des étapes qu'on peut imaginer. Et j'ai besoin de comprendre que je dois passer par chaque filtre de l'au-delà avant d'arriver, avant de prétendre au Jannah. Et le dernier filtre, c'est costaud, c'est Sirat. Le Sirat, on peut conclure avec le Sirat, enfin pas commencer, mais je parle du Sirat. Qui c'est qui passe le Sirat? Que les mu'min, que les personnes qui ont la ilaha. Celui qui n'a pas la foi, il ne passe même pas. Il est déjà tombé depuis bien avant. Et du coup, ça nous donne une autre vision de Sirat. On a toujours vu qu'il y en a qui passent à la vitesse de l'éclair, d'autres qui vont marcher, tituber, tomber. Ça veut dire que c'est Ahl al-Tawhid qui tombe dans le Jahannam. Ceux qui ont la foi qui tombent dans le Jahannam. Donc ça nous fait comprendre qu'il y a des gens qui remontent aux cieux avec des bonnes œuvres, mais qui doivent passer par le Jahannam à cause d'un manquement. Qu'Allah nous protège. Donc, en conclusion, aujourd'hui, on a juste pris conscience qu'il y a un gros travail à faire sur notre iman, et uniquement sur l'iman billah, on a besoin de connaître devant qui on se prosterne, qui est Allah, et avec ça on aura haqiqa, la réalité de la foi, et ça va, on va retrouver inchallah le résultat de la qualité de nos bonnes actions. Qu'Allah nous accepte tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de mettre en application. Et les questions, on avait annoncé au début qu'il y a une séance de questions-réponses. On est à la 65e minute. Donc, juste trouver une solution. Tu as un autre micro, Mohamed?
Non.
Voilà, si quelqu'un peut les récupérer. Je pense qu'il y a des feuilles en bas. S'il y a des questions, encore on a dit idéalement des questions en rapport avec le sujet. Si on peut récupérer avec les dames qui sont en bas, mashallah, au moins on peut essayer de répondre aux questions. Jazakallah khair.